J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
Un vrai tueur, le meilleur de toute la ville.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scoop, votre rendez-vous radiophonique hebdomadaire pour parler cinéma sur radiocampus.be ou la fréquence 92.1. Je m'appelle Victoria et j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer et de faire la technique de cette émission qui risque d'être sous les tropiques vu la température actuelle. Mais quelle que soit la météo, ça ne nous empêchera jamais de parler de cinéma, il faut le sachez. Mais je ne suis pas seule dans ma quête parce que ma quête pour affronter la chaleur tout en parlant cinéma, car je suis aussi accompagnée de Clarence. Bonjour Clarence.
Allô, allô, ça fait longtemps.
Effectivement, oui. Donc, il fait très chaud encore une fois, mais en fait, figurez-vous que, bon, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que vient de se terminer le Festival de Cannes, et avec lui, la tombée du fameux palmarès, donc, qui a reçu le Grand Prix. Ça, on va en parler tout de suite. Mais avant ça, je voulais te demander, Clarence, quel était ton rapport au Festival de Cannes ? Est-ce que c'est un événement que tu attends tous les ans ? Est-ce que tu y es déjà allé, toi, personnellement, ou autre ?
Ouais, moi, c'est un truc qui est important pour moi dans l'année cinéphile, entre guillemets, c'est que c'est à chaque fois un moment où j'écoute plein de podcasts et où je me remets un peu là-dedans à fond, parce que je sais que c'est tous les films, les grands films qui vont marquer l'année prochaine. Moi, j'y suis jamais allé, mais c'est un peu bah, le rêve quoi, d'aller à Cannes, forcément. Même s'il y a cette image un peu bon, très élitiste, un peu bourgeoise, tapis rouge, etc. Mais en vrai, quand même, côtoyer les professionnels de la profession, rencontrer les stars, etc., ça fait quand même rêver, on va pas se mentir.
C'est vrai, les tapis rouges, les invitations, les grandes premières. Et les standing ovations aussi, parce qu'il y a beaucoup de films qui ont reçu de grosses standing ovations. Et aussi, je sais pas si c'est une des premières fois, mais en tout cas, j'ai remarqué un truc. Les films récompensés cette année, enfin ceux qui ont reçu les plus gros prix, durent à chaque fois plus de 2 heures. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez peu commun, quoi, en tout cas. Donc,
Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une mode quand même des films d'auteur, entre guillemets, qui commencent à durer de plus en plus longtemps, j'ai l'impression. Après, je sais pas si c'est qu'une impression, mais c'est vrai que les derniers que j'ai vus, ils durent longtemps, quoi.
Ouais, c'est vrai. Écoutez, moi, Cannes, pareil, c'est un événement que j'attends un peu tous les ans parce que, bah, comme tu dis, mine de rien, ça va un peu annoncer la couleur d'une bonne partie du box-office de l'année, voire de l'année prochaine. Ça, c'est en fonction de ce qu'on appelle la chronologie des médias et de plein d'autres facteurs, dont les productions aussi. Ça, on va en parler évidemment parce que ça aussi, ça a fait fureur sur la croisette. Il y a eu des petits... Voilà. Est-ce qu'on va vraiment entrer dans la politique aujourd'hui ?
Moi, je serais chaud, hein, mais...
Allez. mais en tout cas, c'est pas encore le sujet maintenant. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a un film de Cannes 2025, donc de l'année dernière, qui te marque encore aujourd'hui et pourquoi ? Parce que je trouve qu'encore une fois... je trouve que l'année dernière, on a quand même eu droit à un très beau cru en termes de films. Ouais. Tous les films récompensés, j'ai eu la chance de les voir et... Honnêtement, c'était vraiment tous des bangers. Enfin, après, hein, pas évidemment sur le moment même, mais ouais.
J'avoue, moi, je les ai pas tous vus. J'ai revu un peu la sélection. Moi, tous les ans, ma tradition, c'est de voir la Palme d'Or. Et celle de l'année dernière était très belle, très politique. Un film iranien, Un simple accident, qui était vraiment super fort. Mm-hmm. Et un autre aussi qui a gagné le prix du scénario à un certain regard, c'est Pillion, qui est sorti, je sais pas comment le prononcer, Pillion.
Ah, j'ai pas encore vu celui-là, mais il est vraiment chouette.
Qui est vraiment super, et celui-là, il m'a marqué fort et continue à me marquer. Et toi ?
Comme tu dis, la Palme d'Or de l'année dernière, Un simple accident de Jafar Panahi, avait fait grand bruit, et pour cause, c'est un très gros mot, mais moi je trouve honnêtement c'est un chef-d'œuvre.
Ouais. Enfin, voilà. Ouais, ouais, ouais.
C'est, enfin, il y a un côté un peu intemporel oui, c'est un gros film de soulèvement politique, des masses qui sont oppressées et qui en peuvent plus quoi.
Moi, c'est la fin qui me reste vraiment en tête quoi.
À fond, la fin est super moderne et ça représente tellement bien la tension politique actuelle iranienne et d'ailleurs je pense que Jafar Panahi est de nouveau emprisonné ou alors encore fait de face à la politique iranienne.
C'est terrible hein. C'est terrible.
Le merveilleux monde dans lequel nous vivons actuellement. mais en tout cas, on ne va pas vous spoiler la fin, mais si vous ne l'avez toujours pas vu, voyez Un simple accident, parce que c'était la palme de l'année dernière. Et honnêtement, je pense qu'elle aura encore eu la palme aujourd'hui. Voilà, c'est un film encore actuel, malheureusement. Pour rappel, il y avait aussi Sirat l'année dernière, qui était très chouette. Il y avait un très gros travail sur le son. Il y avait une volonté d'avoir une sorte de discours un peu christique dedans aussi. C'est un très bon film. Enfin, je trouve, en tout cas.
Je l'avais pas vu, mais c'est intéressant. Mais ce film a vraiment beaucoup fait parler de lui. Et il y a plein de pistes et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi.
Il y a aussi l'agent secret aussi, dont nous aurons peut-être l'occasion de parler pour le sujet de la semaine prochaine, je tease. je ne vous dis pas encore de quoi il s'agira, mais en tout cas, on risque d'en parler la semaine prochaine. Donc, soyez au rendez-vous la semaine prochaine si vous aimez, comme moi, l'acteur Wagner Moura. Mais aussi, évidemment, Valeur sentimentale de Joachim Trier, qui a fait beaucoup parler de lui. Personnellement, ce n'est pas mon préféré du réalisateur, mais c'est vrai que... Bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais évidemment, il y a beaucoup de sentiments dans le film. Enfin, ça tourne toujours beaucoup autour du sentimental. Et le jeu d'acteur est génial, comme dans tous les films de Joachim Trier. Et aussi, ça aussi, un film qui est d'ailleurs actuellement en salle, et j'en suis vraiment très touchée, c'est The Mysterious Gaze of the Flamingo. Et c'est chouette parce qu'il était déjà passé par le Brief. Et en fait, avant ça, figurez-vous qu'il était déjà à Un certain regard à Cannes, et il avait reçu le prix d'Un certain regard. Et c'est totalement mérité parce que ce film est génial. En fait, c'est un western queer. Et si juste ça vous a pas donné envie de voir ce film, je ne sais plus quoi faire. Mais en tout cas, il est en salle actuellement et profitez-en parce qu'il y a certaines salles qui sont climatisées. Et sinon, il y a des super cinémas bruxellois comme par exemple le Cinéma Galerie. Ce n'est pas une... Ce n'est pas une rémunération ni rien, mais en tout cas, ce petit cinéma, figurez-vous, qui prodigue... Ils procurent, pardon, des éventails en carton, voilà, pour vous aérer, ce qui est vraiment très pratique. Voilà. On va attaquer le palmarès de cette année, parce que je pense que vous avez un petit peu, toutes et tous, déjà un peu entendu ce qui est tombé. Mais pour rappel, donc, la Palme d'Or de cette année a été décernée à Fjord, du réalisateur roumain Cristian Mungiu, avec la grande Renate Reinsve, qu'on a découvert chez Joachim Trier, donc Julie en 12 chapitres, et Valeur sentimentale récemment. Et Sébastien Stan, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il fait de plus en plus de propositions super intéressantes en termes de cinéma. Ouais. Rappelez-vous, The Apprentice.
Il est encore choqué, lui, apparemment. Ça fait 2 ans qu'il essaie de s'en remettre de ce rôle.
Mais là, apparemment, on est vraiment en dehors des biopics politiques, parce que si vous ne le savez pas, The Apprentice de Ali Abbasi, je pense, c'est un film biopic un peu... sorte de satirique, en fait, dans son écriture, en soi, complètement sur Trump, figurez-vous. Et ça m'étonne qu'il n'ait pas eu plus de répercussions que ça dans la presse, vu comment il dépeint le dirigeant états-unien. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais apparemment, ici, il serait question de violence familiale présumée dans une famille roumano-norvégienne très pieuse. Ça m'intrigue beaucoup. Le prix de la mise en scène a été remis ex aequo. D'ailleurs, cette année, il y a eu énormément de prix ex aequo. Je pense que c'est une première aussi. Ex aequo, donc deux films pour le prix de la mise en scène. Il y a eu La Bola Negra du duo de réalisateurs Los Javis, qui s'appelle comme ça parce que c'est deux réalisateurs qui s'appellent Javier. Figure-toi, je ne sais pas si tu savais, mais ils ont participé au Drag Race Espagne. Ils ont fait plein de trucs super stylés comme ça. Donc, c'est deux réalisateurs profondément queer. Et là, ici... apparemment, La Bola Negra, qui a un petit casting de fou malade, est quand même Penélope Cruz. Un acteur que j'aime beaucoup, c'est Lorenzo Zurzolo, qui est un acteur italien qui avait joué dans la série Baby sur Netflix. Mais il a aussi joué dans le film EO avec Lan, qui était vraiment très très beau. Mais aussi Bernard Giraud, non, comment il s'appelle cet acteur, un acteur qui avait joué dans Élite, bref, mais évidemment Penélope Cruz. Et apparemment, ça raconterait trois histoires queer à travers trois décennies différentes, et ça m'intéresse beaucoup. Et le film dure 2h30 et je suis prête à les payer.
Ouais, moi aussi.
Mais vu comment c'est écrit, ça me rappelle un peu Cloud Atlas dans un autre registre.
Clairement, c'est sûrement celui qui me tente le plus.
Et ex aequo fut aussi remis ce prix là pour Fatherland de Pawlikowski, qui est un grand réalisateur polonais. Le cinéma polonais est très sous-coté. Peut-être qu'avec Sarah, on en parlera un jour, je tease. mais ça a l'air vraiment très chouette. Pawlikowski, qui avait fait Cold War, et Ida, qui était très jolie aussi en noir et blanc. Donc, du très bon cinéma d'auteur polonais que je vous recommande. Alors, le grand prix a été remis à Minotaur de Andrzej Zwiagintsev. je vais essayer de le prononcer, qui est apparemment une adaptation de La femme infidèle de Claude Chabrol, qui est je trouve un très bon réalisateur français. Prix interprétation masculine, là c'est ex aequo aussi parce que c'est les deux membres, c'est les deux protagonistes principaux de Coward, le nouveau film de notre cher Lucas Dont national, qui avait fait Girl, qui était vraiment chouette, même si évidemment à choisir ça aurait été quand même mieux d'avoir peut-être casté une actrice qui aurait vraiment été trans, mais ça c'est mon avis. Ah. Et il a aussi fait
Close.
Oui, Close, merci. J'allais dire Tomboy, mais ça c'est Céline Chabot.
Ah non, pardon, c'est pas pareil.
La chaleur est au rendez-vous. Voilà, je suis très contente que ces deux acteurs aient remporté le prix. Ça a l'air très chouette et apparemment ça parlerait d'une romance queer pendant la Première Guerre mondiale. Ça a l'air très très joli. Et là aussi, encore une fois, prix ex-aequo pour l'interprétation féminine pour les deux actrices, le soudain de Ryusuke Hamaguchi, qui avait déjà fait Drive My Car, je pense, c'était lui aussi. Virginie Efira et l'autre actrice dont j'ai oublié de noter le nom.
Tao Okamoto.
Voilà, merci. Donc les deux actrices là aussi, donc vraiment beaucoup de prix ex aequo cette année, ça m'étonne beaucoup. Le prix du scénario, ça c'est un film qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Notre Salut de Emmanuel Mar. Emmanuel Mar, ça ne vous dit peut-être rien, mais figurez-vous qu'il a été diplômé de l'INSA, si je me trompe, donc c'est un Belge aussi. Et précédemment, il a aussi fait Rien à foutre avec Adèle Exarchopoulos en 2022, qui jouait le rôle d'une hôtesse de l'air assez nihiliste, est-ce qu'on peut la qualifier de ça?
C'est ce que j'ai entendu, ouais.
Oui, bon, très chouette film aussi, que je vous conseille. Et là, on suit Swan Arlo, notre cher Swan Arlo, très engagé, qui nous fait plaisir sur cette croisette cette année. Et apparemment, ça parlerait donc de Swan Arlo, qui vivrait la France sous Vichy, et qui se réveillerait politiquement dans cette France sous Vichy. Et apparemment, ce serait inspiré des échanges épistolaires que le réalisateur aurait retrouvés entre son grand-père et sa grand-mère, si je ne me trompe pas. Et ça a l'air vraiment très très chouette, et apparemment, Cinéville compte peut-être le prochain en salle. Il a l'air vraiment très chouette, j'ai très hâte de le rattraper. Il y a plein d'autres prix aussi, mais je vais peut-être pas tout laisser citer, parce que sinon on en a pour une heure, et il y a plein de films qui n'ont pas eu beaucoup de bruit en tant que tel, donc peut-être que si on les verra en salle, ou on s'en parlera. Mais en tout cas, sachez que cette année, le prix de la caméra d'or fut présidé par une actrice réalisatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Monia Chokri. Mmh. Donc c'était très stylé. Et Un certain regard cette année fut présidé par l'actrice Laila Bekti.
Mmh.
Donc voilà. Et par contre, ça c'est vraiment très chouette, mais la Queer Palm fut donnée à Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrunn, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup beaucoup, qui avait fait I Saw the TV Glow, qui est génial. Mmh. Si vous ne l'avez pas vu, rattrapez-le, c'est merveilleux. Et là, ça a l'air génial, et surtout que c'est avec notre modeur à tous, à savoir Gillian Anderson, quand même. Donc, ça a l'air vraiment très 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 chouette, et j'ai hâte qu'il sorte en salle. En dehors de ça, est-ce que tu aurais des hypes hors palmarès ou dans le palmarès, donc des films qui te donnent envie, mais qui n'ont pas beaucoup été abordés ou autre?
Bah oui, bah c'est vrai que... Enfin, on a déjà parlé de La Pola Negra, ça me donne vraiment très envie. Mais en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette édition, c'est qu'il y a moins de gros réalisateurs qu'avant. Il n'y a pas les Scorsese, les Malick, etc. Enfin, Malick qui est encore en train de faire son montage de Jésus, là, qui dure 3000 heures, je sais pas quoi.
Ça fait pas genre 5 ou 7 ans qu'il est utilisé, ce film.
Exactement. Et du coup, ils sont un peu occupés en ce moment. Et du coup, là, il y avait vraiment des trucs, enfin, des réalisateurs vraiment très cinéphiles. Et du coup, ça me donne envie de rattraper plein de carrières. Christian Mungiu, j'en ai pas vu. Andrei. Je sais pas dire son nom, j'en ai pas vu non plus.
Il avait fait Faute d'amour, qui avait l'air très beau aussi.
Oui, et Léviathan, et ça a l'air super, et j'ai envie de rattraper tout ça, même Hamaguchi, enfin, je suis passé à côté pour l'instant. Et en fait, tout ça, ça me donne très envie. Bah, niveau français, oui, il y a du coup Notre Salut qui a l'air super. Et hors sélection, moi, évidemment, le film que j'attends le plus, c'est Le Nouveau Na Hong Jin, qui est un film coréen, Hope, et qui a l'air monstrueux.
Il a l'air génial, ouais.
Et toi?
Il y avait aussi Her Private Hell de Nicolas Winding Refn, qui est un grand réalisateur danois. On peut ne pas l'aimer parce qu'en dehors de ce film, ce mec est un peu une tête à claque.
Ah,
je vais être gentille dans le terme. Mais en tout cas, il fait quand même des bons films. J'ai pas tout vu de lui, mais on m'a dit que sa série était un peu pétée. Mais en tout cas, il s'est fait connaître évidemment au Danemark à l'époque parce que c'est un peu lui, je pense, qui a lancé la carrière de Mads Mikkelsen, d'ailleurs, avec la saga Pusher. Donc j'ai juste vu le premier, mais c'est
le 2 est un chef-d'œuvre.
Ouais. En général, les deux, en général, c'est toujours les meilleurs dans les trilogies. Ouais. C'est la grande théorie. Il avait aussi fait... c'était pas Pusher, c'était un autre, avec Mads Mikkelsen.
Il a fait Bleeder, du coup.
Bleeder. Et évidemment, Drive, qui a fait un raz-de-marée en 2012. Nicolas Winding Refn, Only God Forgives, qui était vraiment pas mal du tout. Mais c'est une proposition assez étrange qui se passe en Thaïlande. Je comprends qu'on passe à côté, mais je sais pas, je trouve que c'est un film qui te met dans un état de transe, comme ça, dans son univers un peu étrange, que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Et là, ici, ça se passe avec l'une de mes actrices du moment préférée, à savoir Sophie Thatcher, qui a joué dans tout plein de films d'horreur vraiment très chouettes. Boogeyman en 2023. C'est un film qui n'a pas eu beaucoup de vent, mais il est sur Disney+. Je pense.
Il est chouette.
Pas mal du tout. Elle avait fait aussi Hérétique avec Hugh Grant. C'est un peu le mansplaining, le trope du film d'horreur. Et je trouvais ça vraiment très intéressant parce que tout se joue dans le scénario, en fait, dans ce film. Je vous lis pas l'histoire parce que honnêtement, c'est mieux de pas savoir l'histoire. Ça, c'est plus immersif. Mais c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et là, ça parlerait encore une fois de l'univers de la mode, parce que Nicolas Winding Refn, petit rappel, avait aussi fait un petit chef-d'œuvre qui s'appelle Daniel Demon en 2016, qui était un petit banger. Et là, le casting est fou, parce qu'encore une fois, il y a Sophie Thatcher, il y a Charles Melton, qui nous avait fait trembler dans May December récemment, de Todd Haynes, qui était vraiment très chouette. Et il y a aussi Havana Roseliu, qui avait joué dans Bottoms. Vous voyez, Bottoms, c'est trop cool.
Oui, Bottoms, c'est trop bien.
C'est trop, trop cool, Bottoms. On va en parler un jour. On a déjà parlé plein de fois, mais un jour, on fera une vraie conique et on essaiera de vous contaminer dans cette envie de voir d'autres films de Emma Seligman qui est la réalisatrice du film. Et là, ça se passerait aussi dans le milieu de la mode. Il y aura un rapport à la parentalité assez toxique. De ce que j'ai entendu, c'est très flou, mais les retours sont très partagés. Bah, un peu comme tous les nouveaux projets de Nicolas Winding Refn, en fait. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment parce que le film est pourri ou parce que c'est vraiment très niche comme proposition. On verra et on vous le dira, évidemment. Il y en a plein d'autres aussi, évidemment. Il y a The Man I Love de Ira Sachs qui avait fait Passage avec Adèle Exarchopoulos, qui est pas mal du tout. C'est l'histoire d'un trouble. Je ne sais pas trop dire le nom non plus, mais enfin, en tout cas, ouais, moi, j'aime bien son cinéma, Ira Sachs. C'est un petit cinéma d'auteur très chouette, très queer, très ouvert. Et ici, c'est avec... je ne sais plus. Il avait joué dans Bohemian Rhapsody.
Rami Malek.
Oui, merci. J'avais son nom de famille, j'avais plus le prénom. Il y a aussi Garance de Jeanne Herry. Donc Jeanne Herry qui avait fait le merveilleux Je verrai toujours vos visages, qui est merveilleux. Ah, oui. Voyez ce film, c'est un chef-d'œuvre. Et là, c'est avec Adèle Exarchopoulos et Anna Girardot. Et ça parlerait d'amour queer et d'une actrice alcoolique au fil des années. C'est ce que j'ai compris. Il y a eu très peu de retours. À Cannes, tout simplement. J'ai eu très peu de retours, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai très hâte d'aller le voir. Il y en a pas un autre aussi. Il y a aussi La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Taquet. Je ne sais plus ce qu'elle avait fait, mais c'est une réalisatrice qui me donne envie. C'est avec... C'est terrible, la chaleur vous fait avoir des gros trous de mémoire. C'est super pratique en pleine émission. Avec Léa Drucker, voilà. Léa Drucker et Maëlle Thierry. Et là aussi, ça parlerait d'amour queer. Beaucoup d'amour queer cette année, on est très contents. L'inconnu de Arthur Harari, qui est le co-scénariste à chaque fois de la plupart des projets de Justine Triet, qui avait aussi fait le procès Goldman, qui était vraiment pas mal du tout, qui était Cannes 2023. Et là, c'est avec Léa Seydoux. Et le concept me fait beaucoup penser à Sense8. Et en fait, apparemment, c'est l'histoire d'un mec qui se réveille dans le corps d'une femme et il essaie de comprendre où il en est arrivé là, quoi.
Oh wow.
Ouais, c'est deep. Il y a trop de films. Monsieur Quentin Dupieux fait deux films cette année. Il a représenté tous les deux à Cannes, mais il a fait un film américain qui s'appelle Full Fill avec plein de gens, genre Kristen Stewart et Woody Harrelson. Mais je préfère son autre film qui a l'air extrêmement cool. Et là, c'est un retour au vrai bon Quentin Dupieux dans son bouillon, qui s'appelle Le Vertige. C'est une animation très spéciale qui me fait un peu penser aux Sims. Et en fait, on est dans un jeu de simulation. Et puis, t'as Alain Chabat qui vient voir Jonathan Cohen dans ce jeu d'animation, enfin dans ce jeu, qui lui dit « Mec, je pense qu'on n'est pas dans une vraie réalité. » Et voilà, et ça a l'air beaucoup trop space incroyable. Et Quentin Dupieux, quoi.
Je crois qu'ils ont même fait des interviews avec ce style graphique
ouais,
et tout.
C'est trop cool et le casting est génial. On retrouve Alain Chabat, je l'aime beaucoup chez Dupieux. Il avait fait un film qui est très sous-côté, Savoir, Incroyable mais Vrai. Mm-hmm. Je trouve qu'il était vraiment pas mal du tout.
Ouais.
Et Jonathan Cohen et Anaïs de Moustier qui est toujours aussi cool. Anaïs de Moustier, j'ai pas d'autres choses à dire sur elle. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Beaucoup de films, hein. Il y a aussi Sanguine, apparemment c'est une proposition de cinéma de genre qu'elle a vraiment cool et écrit au féminin, donc ça j'ai très hâte de le voir. Il y a le nouveau Bertrand Mandicot, j'aimerais trop vous faire une émission de Bertrand Mandicot un jour, mais c'est un cinéma très spécial, donc il faut arriver à ramoter des gens pour en parler.
Ouais.
Quoi d'autre ? Il y a aussi le nouveau Christophe Honoré qui est très chouette, Christophe Honoré qui fait du cinéma queer, et ça s'appelle Mariage au goût d'orange, et là il y a un casting 5 étoiles aussi, parce que c'est avec Adèle Exarchopoulos, il y a qui d'autre dedans, il y avait... Je sais plus, mais il y a trop de gens. Il y a Nadia Tereskevich, Vincent Lacoste. Voilà, je vais arrêter de vous citer des noms. En tout cas, checkez les films qui sont rescapés de Cannes cette année. Il y a beaucoup trop de noms, j'en ai raté plein. Il y a beaucoup de grands noms du cinéma qui revenaient cette année, je trouve. Par contre, un truc que je trouve un petit peu désolant, c'est mon petit coup de gueule. C'est je trouve ça un peu dommage que sur toute la sélection, à chaque fois de la compétition, cette année, on a eu que 5 films réalisés par des femmes. Je trouve ça un peu dommage parce que le reste passe... En tout, il y avait genre 15 films en sélection, je pense. Il y avait une dizaine, un truc comme ça. Et sur les dizaines, il n'y en avait que 5 réalisés par des femmes. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Voilà.
C'est sûr.
C'est mon petit message politique. Voilà, il fait très 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 chaud. Est-ce qu'on ferait pas la musique maintenant ? Comme ça, on fait une petite pause. Ça peut être chouette. Je vais faire une petite pause musicale. Ensuite, on va parler des films rescapés de Cannes qui sont en salle actuellement. Et Avant cela, je vais passer une petite musique qui parle du fait d'être une star et de vouloir se dévouer au métier. Et pour ça, j'appelle une grande diva appelée Dalida. Je parle évidemment de Mourir sur scène et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
À tout de suite.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seul dans
De retour sur Scope, votre émission hebdomadaire pour parler cinéma. Aujourd'hui, on est revenu sur le palmarès cannois de 2026. On a un peu décortiqué les films qui ont été récompensés cette année et on a un peu discuté de nos attentes, de nos avis et aussi de ce qui nous reste encore en nous de Cannes 2025, parce qu'encore une fois, il y a eu un très bon cru de Cannes 2025. J'ai l'impression que les films promus cette année auront peut-être un peu moins de répercussions au box-office. Ouais. J'ai l'impression que c'est peut-être des propositions un petit peu plus niches, je sais pas ce que
tu en penses. Je pense aussi. Vraiment. C'est ce que je disais, il y a vraiment, on voit le palmarès, il y a peu de réalisateurs qui sont reconnaissables par le grand public, entre guillemets.
Mm-hmm. À part peut-être Pawlikowski, donc encore une fois, c'est un réalisateur polonais qui avait fait Ida et Cold War, mais encore une fois, c'est vraiment connu par la sphère cinéphile.
C'est quand même cinéphile, ouais, je trouve.
Ouais. Mais en fait, moi, je mise sur mon jeton en dehors de la Palme d'Or, parce que je pense que peut-être des gens cinéphiles vont peut-être la voir, mais encore une fois, à part pour peut-être Sebastian Stan, peut-être moins de gens iront le voir. Je mise mon jeton sur le fait que peut-être que cette année, les gens iront plus voir des films qui sont sortis de Cannes, mais qui n'ont pas été promus du tout, ou qui était hors compétition, parce que encore une fois, cette année, je sais pas, enfin, c'est pas non plus particulier, mais je trouve que particulièrement cette année, il y a quand même pas mal de grands noms du cinéma qui reviennent. J'ai oublié de le citer, mais cette année, on a eu droit à un nouveau film de Kiyoshi Kurosawa qui fait cinéma extraordinaire. En fait, un jour, on fera une émission spéciale sur lui, sera génial. Et non, il n'a aucun lien de parenté avec Akira Kurosawa. Voilà, c'est une petite coïncidence. En plus, ils font vraiment du cinéma pas très jumelable, je ne sais plus parler. Il fait très très chaud ici. Hein. voilà. Il y avait aussi le nouveau film de Géraldine Nakache qui s'appelle Si tu penses bien, avec Monia Chokri et Nils Schneider, qui parle apparemment de maltraitance psychologique dans un foyer avec un enfant. Ça a l'air vraiment très chouette. Donc oui, il y a vraiment de grands noms du cinéma. Il y a Bertrand Mandico qui revient. Il y a qui d'autre? Il y avait aussi Dupieux qui regarde deux films, encore une fois. On en a parlé. Un en animation et l'autre en version anglophone. Avec d'ailleurs un acteur qui était déjà dans la réalité aussi. Il s'appelle comment? Eric Durkheim, comment il s'appelle? C'est l'acteur qui joue un peu l'adulte dans réalité, je sais pas comment le décrire, mais c'était l'adulte avec ses lunettes dans réalité.
Ouais, je vois.
Voilà, il faut avoir la ref, mais en tout cas, hâte de voir les nouveaux Dupieux, parce que je sais pas toi, mais en tout cas, les deux derniers, j'ai vraiment pas aimé de lui.
Ah, c'était, rappelle-moi, l'accident de piano, t'as pas aimé?
Non, en fait, c'était pas mal, mais je trouve, je vais pas aller dans la marche, je trouve que le film est un peu oubliable.
Ok, je comprends. Voilà. Moi, j'en aime toujours un sur deux, moi. C'est toujours un sur deux.
Ouais. Je trouve qu'il a fait un peu un raz-de-marée en enchaînant trois bangers. À l'époque, il avait fait Yannick. Dali, je trouvais vraiment excellent, même si avec du recul, évidemment, il y avait Edouard Baird dedans. Si vous ne savez pas, Edouard Baird était un peu accusé d'agression quand même, on le rappelle. Mais en tout cas, je sais pas, la proposition de Dali était super intéressante, ça m'avait beaucoup marqué. Et d'ailleurs, petit fun fact, c'était ma première chronique ever dans Scope. C'était il y a déjà 2 ans. Le temps passe très vite. mais oui, un accident de piano, je l'ai vu, c'était pas mal du tout. C'était mieux que le deuxième acte que j'ai vraiment pas aimé. Je trouvais qu'au début, il y avait un beau concept, mais qu'il s'est un peu perdu dedans. Et en fait, il se moquait un peu trop de son propre concept vers la fin. Et ça m'a perdu parce que le ton n'était plus, quoi.
Alors moi, j'ai beaucoup aimé celui-là, ouais. Moi, je suis moins fan de Dali, mais celui-là, j'ai beaucoup aimé.
Ah ouais?
Mon préféré, ça restera Fumé fait tousser, que j'aime beaucoup.
Ah, très cool, ouais. C'est vrai qu'il est vraiment très chouette. Un petit film à sketch, pas piqué des hannetons, très cool. Si vous voulez voir Anaïs de Moustier, Vincent Lacoste et Gilles Lelouch et Jean-Pascal Zadi en costume de Power Rangers qui s'appelle La Tabac Force.
C'est ça, qui envoie du tabac sur les monstres pour leur donner le cancer du poumon pour qu'ils explosent.
Voilà. Qui se raconte des histoires qui font peur au coin du feu. Il y a un petit casting super stylé dedans. Allez-y, c'est vraiment très chouette. Il me fait tousser. Il a 4 ans déjà.
Ouais, je pense.
Oh, ça passe vite. Ouais. On rappelle que Quentin Dupieux a une sorte de problème de rétention de filmographie dans le sens où il pond un film par an. Et cette année, c'est 2 films qui sortent cette année. Donc,
c'est impressionnant.
Voilà. C'est un esprit qui gamberge tout le temps, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, moi, cette année, je pense les films hors compétition et hors prix auront plus de succès que les films du palmarès, parce que je pense que c'est des propositions un peu trop cinéphiliques.
Ouais, oui, c'est vrai.
ça, c'est ma vision. On verra si elle s'accomplit, mais j'ai l'impression que ce sera un peu ça, quoi.
Ouais.
Voilà, voilà. Bah, maintenant, on va parler des films de Cannes qui sont actuellement en salle, parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, mais figurez-vous que pendant le festival de Cannes, sont sortis en même temps que leur projection au festival des films du festival. Donc, par exemple, je pense à La Vénus électrique de Pierre Salvadori, qui a fait l'ouverture du festival de Cannes et que j'ai pu voir au cinéma et grâce au Palace, notamment. Qui le diffusait en même temps que sa projection donc, de l'ouverture du festival à Bruxelles. Donc, wow. T'avais un peu l'impression d'immerger dans l'ouverture du festival avec. J'ai pas eu l'habitude de voir beaucoup de films d'ouverture de festival de Cannes, donc je sais pas si c'était vraiment une bonne ouverture ou quoi. Mais en tout cas, La Vénus électrique, je sais pas si tu l'as vu, je sais plus. Non. Pierre Salvadori, il avait fait En liberté, ouais. Avec Pio Marmaille, qui est aussi dans le film La Vénus électrique. La Vénus électrique est un film vraiment très chouette. Je pense que c'est une comédie qui peut un peu plaire à tout le monde et ça a clairement pas la vocation d'être un chef-d'œuvre, mais enfin il y a cette faculté qu'a Pierre Salvadori en tout cas à vous immerger dans son univers. Je sais pas comment il fait, mais en fait il arrive toujours à nous immerger dans sa licence poétique, donc le fait d'adhérer ou pas donc à l'univers d'un auteur ou d'une autrice. Et oui, là ici ça parle de magie, quoi. Donc je sais pas si tu connais l'histoire de Vénus.
Bah oui, j'allais te demander, raconte-moi un peu de quoi ça parle.
Ah bah avec plaisir. C'est l'histoire de Anaïs de Moustier dans un petit cabaret à la Freaks, donc vraiment au début du XXe siècle, donc avec la fameuse parade aux monstres avec des gros guillemets. Bon, c'est très bien les retors sociétaux qu'il y avait dedans et comment étaient traitées les personnes là-bas, mais ça c'est un autre sujet. Est une Vénus électrifiée littéralement, donc en fait son boss la paye pour se faire électrocuter pendant qu'elle embrasse des inconnus. Donc il y a un petit rapport de bon entendeur un peu plus d'un côté que de l'autre, vu, vu le contrat qui est signé. Et un jour, elle traîne dans la caravane d'une voyante qui s'appelle... comment elle s'appelle la voyante encore? Je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, elle traîne dans la caravane de la voyante. Et pendant qu'elle chipe des affaires de la voyante qui est en train de boire des coups à côté, elle tombe sur Pio Marmaille, hyper sous, qui veut absolument payer pour qu'elle lui fasse une séance, pour qu'il puisse voir sa chère et tendre qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et donc, elle va faire semblant, elle va complètement faker le fait qu'elle est une voyante, alors qu'elle n'est vraiment pas du tout, pour amasser la thune de Pio Marmaille. Mmh. Et ça marche tellement bien que le lendemain, elle retourne chez lui et en fait va commencer une arnaque qui va être financée par Gilles Lellouche. Oui, il joue dedans. Est-ce qu'on va pas vraiment parler de l'affaire Gilles Lellouche?
J'ai pas de news. J'avoue que tu me prends à dépourvu.
Ok, on va pas en parler, c'est pas grave. Chacun a son avis sur l'affaire, d'autant qu'il s'est excusé, hein, avec un peu de retard, mais il s'est excusé. Rien à voir avec le film, pardon. Qui est l'ami et le manager de Pio Marmaille, donc d'Antoine dans le film, qui est un grand peintre, mais qui a arrêté de peindre depuis que sa chair est tendre et décédée. Et donc Gilles Lellouche va payer Anaïs de Moustier en sachant que c'est une arnaqueuse pour entretenir ses séances parce que ça lui filait bien et il recommence à peindre. Et je vous en ai pas plus, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et en fait, ça t'immerge dans un monde de magie et c'est très comique aussi. Ça, c'est surprenant. On s'attend à un film très fantastique, mais en fait, parfois le langage se mêle au langage moderne et joue vraiment sur l'humour. Et c'est un humour assez franc et ça peut vraiment toucher tout le monde, d'autant que la romance joue dedans aussi, jouée par Vimé Laponce, qui est une très grande actrice que j'aime beaucoup.
Ouais.
Et j'adore son personnage dans le film. Voyez La Vénus électrique qui est encore actuellement en salle. C'est vraiment pas mal du tout. Ça dure une petite heure et demie, 1h50 maximum. C'est une proposition de cinéma assez honnête. Encore une fois, ça n'a pas la vocation d'être un chef-d'œuvre, mais voilà. Donc ça, c'était l'ouverture du festival. Il y a aussi eu le nouveau Almodovar qui est sorti au cinéma, que j'ai vu. Et je vous avoue que c'est pas mon préféré de lui. J'étais un peu hypée parce que c'est un peu le retour en grande pompe de Pedro Almodovar dans un film hispanophone. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ça. Ça faisait depuis 2022. Et j'ai un peu été déçue. Même moi, en tant que fan de son univers, j'étais un peu déçue. Voilà, vous ferez votre avis. Enfin, en fait, faut vraiment adhérer à son cinéma pour l'aimer, je crois. Mais même en l'aimant, même moi, j'ai pas été dedans, donc je sais pas. En tout cas, j'ai pas adhéré au projet, voilà. Mais en tout cas, on a vu tous les deux un film qui nous a beaucoup hypé et qui est sorti en même temps, encore une fois, que la diffusion à Cannes. On a vu le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen qui s'appelle El Ser Querido en espagnol, ou alors L'être aimé en français. Est-ce que tu veux nous raconter l'histoire?
Oui, du coup, c'est l'histoire de Javier Bardem, qui est une sorte de grand réalisateur dans cet univers-là, et qui va recruter sa fille, qu'il n'a pas vue depuis 13 ans, qu'il a un peu abandonnée, on ne sait pas trop ce qui se passe au début du film, mais on sent qu'il y a une sombre histoire là-dedans, pour qu'elle joue dans son nouveau film, qui va tourner en Espagne. Et en fait, moi, j'ai pas vu Valeur Sentimentale, mais on m'a dit que ça ressemblait beaucoup au pitch de Valeur Sentimentale.
Ouais, j'ai pensé en lisant le pitch, enfin, quand on m'a raconté l'histoire, ça m'a beaucoup fait penser à ce film, ouais.
Parce qu'en gros, ce mec-là, Javier Bardem, va beaucoup utiliser le cinéma pour, essayer de renouer avec sa fille. Et en même temps, il y a une sorte de malaise fort, parce que lui, on sent que c'est pas une figure masculine qui est très saine, et que elle a peur de lui, en même temps elle veut renouer avec son père. Enfin, c'est hyper complexe comme scénario et j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup Sorogoyen, j'aime beaucoup El Reino, j'ai trouvé ça super haletant, qui est un thriller politique super impressionnant. J'ai beaucoup aimé Asbestas avec Denis Ménochet. Et pareil, je perds les noms aussi, mais qu'on retrouve une actrice française dans le film.
Marina Foïs.
Marina Foïs, merci beaucoup. Qu'on retrouve aussi dans le film comme un clin d'œil à son dernier film du coup. Et là, c'est un peu plus, un peu plus intime, je trouve, comme film. Ces autres films, je trouve, c'était plutôt des hommes en opposition au système, qui vont essayer de se débattre, qui vont essayer de vaincre ce système un peu oppressif, etc. Là, je trouve que le personnage de Javier Bardem, c'est le système en fait, et c'est lui qui est le danger, et c'est plutôt remettre la place au personnage féminin qui va devenir central. J'ai pas vu Madré, mais je pense que ça peut-être un peu, ça va un peu plus dans cette direction. Mais du coup, là, c'est plus la femme qui est au centre. Et enfin, je vais pas développer encore sur la vie, mais moi, j'ai beaucoup aimé.
Bah, figure-toi que moi, c'était le premier et unique film que j'ai vu de Sorogoyen. Mais son cinéma m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup les thrillers. Bon, c'est un gros mot, mais les bons gros thrillers qui montent vraiment crescendo. Et j'ai l'impression, encore une fois, sa marque de fabrique dans ces thrillers, ça a vraiment attrait à l'humain qui est vraiment poussé à ses retranchements dans sa nature propre.
Ouais.
C'est un cinéma qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup aimé L'être aimé. J'allais un peu reculons parce qu'encore une fois, le pitch me disait, bon, c'est un peu Valeur Sentimentale. Et j'allais un peu reculons dans ce sens-là, mais je me disais aussi, mais comment il va aborder ça différemment? Et on m'a beaucoup vanté les mérites de Asbestas, que je n'ai pas encore vu, mais que je me tarde de voir. Ouais, en fait, il faut que je voie tous ces films. Hein. Asbestas, ça a l'air beaucoup trop bien. J'adore Denis Ménochet et Marina Foïs. Et là, elle revient aussi, d'ailleurs, dans El Ser Querido.
Ouais.
Même si elle a un petit rôle, elle joue le rôle de la productrice, je pense.
Oui, c'est ça, je pense.
Oui, je pense que c'est jamais vraiment défini clairement dans le film, mais je pense qu'elle joue le rôle de la productrice. Mais en tout cas, si vous aussi, vous aviez cette inquiétude de est-ce que L'être aimé, ça va vraiment être la même chose que Valeur Sentimentale? Non, c'est vraiment pas la même chose. Parce que dans la forme, c'est pas le même film, en fait. Ça parle plus ou moins de la même thématique, donc c'est ce réalisateur qui a un peu bafoué sa relation familiale avec sa fille, actrice, donc là ça coche les deux cases dans les deux films, et qui engage sa fille pour jouer dans son film. Sauf que je trouve que l'histoire du film en tant que telle et l'expérience du film est différente dans les deux films. Enfin, dans les deux, on dit beaucoup films, mais dans les deux films, donc Valeur Sentimentale et L'être aimé, c'est pas la même. Enfin, c'est pas traité de la même manière du tout. Dans Valeur Sentimentale, Joachim Trier, je trouve, c'est un réalisateur un peu psychologue, dans le sens où il parle beaucoup de psychologique, il parle de ça à recours de beaucoup de dialogues. Il y a une valeur très thérapeutique au dialogue, donc le fait que tout le monde dise son sac, etc., c'est beaucoup dans la communication. Là où Rodrigo Sorogoyen s'attaque plus, on va dire, à un aspect plutôt sociologique, et puis aussi dans la narration, Valeur Sentimentale, donc il est un peu question de est-ce que la fille va ou pas jouer dans le film. Il y a un peu cette question-là. Et aussi, on parle du film en lui-même, parce que paradoxalement, ce réalisateur, là aussi c'est pareil dans L'être aimé, qui n'a jamais vu sa fille, enfin en tout cas qu'il n'a pas vu depuis très longtemps, va à le culot de refaire un film sur sa famille, qui les connaît un peu pas très bien parce qu'il est un peu bafoué, parce qu'il préfère sa profession à sa famille, dans la maison même familiale. Et donc c'est un peu ça la problématique du film aussi, c'est un peu le culot de l'homme littéralement quoi, de demander ça. Là où dans L'être aimé, déjà l'expérience du film en elle-même va raviver toutes les blessures, toutes les crevasses qui ont été créées dans leur relation. Et ça part vraiment crescendo et c'est... Oui, c'est une sorte de... c'est un peu comme deux fauves dans une cage en fait, c'est assez chauffe et il y a une sorte de biclo psychologique parce que c'est très éprouvant un tournage et ce tournage là en particulier est très éprouvant. Je trouve que encore une fois, bon, c'est pas une leçon, mais Javier Bardem évidemment c'est un très bon acteur, en plus il est très engagé donc on l'aime doublement. voilà et moi vraiment je vous conseille ce film parce que si vous aimez les thrillers qui partent crescendo, là c'est génial parce que en fait cette espérance, ce tournage qu'est le film aura une vertu très thérapeutique, plutôt dans le mauvais sens que dans le bon, mais en tout cas c'est très bien écrit et c'est très bien joué et j'ai découvert Victoria Luengo qui jouait d'ailleurs aussi dans le nouveau film de Almodovar, donc Amaria Navidad. Elle a un petit rôle dedans, mais encore une fois, j'ai déçu du film, ça c'est un truc. Mais en tout cas, on vous conseille L'être aimé de Elsa Carrillo si vous voulez voir un film rescapé de Cannes actuellement en salle. Et prochainement, encore une fois, va peut-être sortir. C'était quoi encore ? C'était Mon salut, voilà. Mon salut de Emmanuel Marc qui a reçu le prix du scénario. C'était le scénario ou de la mise en scène ?
Scénario,
oui. Oui, scénario, voilà. Qui a l'air très cool. Si vous aimez Swan Arlo, courez, moi je vais y aller cet été. Une raison pour aller au cinéma cet été, alors que cet été est pour l'instant très caniculaire, c'est les bons films qui risquent d'arriver au cinéma. Oui. Et en parlant de bons films au cinéma, je fais un saut dans le vide. Le chapitre Cannes est clos, parce que pour l'instant on n'a pas vu plus de films canons cette année.
Ils sont pas sortis encore.
Ça. Mais comptez sur nous pour vous compter nos rattrapages qui arriveront au fur et à mesure de l'année, à mon avis. Parce que maintenant, on va changer de registre, on va se plonger dans une salle beaucoup plus obscure en termes de thématique, et on va aborder Obsession de Curry Barker. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Ouais. Alors, Curry Barker, moi, je l'ai découvert du coup il y a un ou deux ans, avec un film qui a fait pas mal parler de lui, qui est un film sur YouTube, parce que le gars vient de YouTube de base, et il est vraiment jeune et tout, et puis il a tout fait avec ses potes de base. Et en fait, son premier film, enfin, le film qu'il a fait connaître, c'est Milk and Cereal, qui est un film très malaisant déjà, qui avec zéro budget arrive à te mettre hyper mal à l'aise et qui joue beaucoup aussi sur le qui compte aussi beaucoup sur le jeu de ses comédiens. Et là, Obsession, le gars se retrouve avec, bon, il a pas beaucoup de budget, il a moins $1 million de dollars, mais quand même il a une équipe, il a un peu de budget pour faire un peu des effets gore, etc. Et là du coup il va nous parler de l'histoire d'un homme qui en fait, moi, ce qui est cool, c'est que j'avais pas vu la bande-annonce. Et du coup, moi, j'avais que le titre et l'affiche. Et je pensais... Enfin, en fait, il a vraiment joué avec mes attentes, parce que je pensais vraiment que c'était que ça allait être l'homme qui allait être obsédé. Parce que, en fait, dès le début du film, il joue avec toi, et puis il va te faire penser que c'est ça, etc. Mais en fait, il est obsédé... Enfin, il est attiré par une fille. Et à un moment, il achète dans un magasin un peu bizarre avec une vendeuse très, très étrange. Il y a des moments vraiment très planants dans le film comme ça, ou qui n'ont aucun sens socialement parlant, on va dire. Et il va acheter une sorte de bonbon qu'on va casser pour faire un vœu. Et à un moment, il va faire un vœu par rapport à cette fille. Et ça va très, très mal se finir.
Ouais.
Et moi, en fait, le film m'a... Je l'ai pas trouvé parfait au début. J'étais en mode, ok, il y a peut-être des petits problèmes encore de... Il est encore un peu jeune, il y a encore des petits problèmes dans les dialogues, des fois dans les personnages, la cohérence scénaristique et tout. Mais en fait, tu te fais vite rattraper par l'expérience et ce que le film te fait sentir, et à quel point il est vicieux et violent, et comment il va aussi pas hésiter à aller... En fait, il s'inquiète pas de genre être PG-13 pour avoir plein d'argent, etc. Et puis toucher tous les publics cibles américains et pas mettre trop de sang, parce que sinon, voilà, vous comprenez, les teenagers vont pas venir au cinéma avec leurs parents, etc. Vraiment, là, le mec, c'est un mec radical qui va avoir un peu de budget. Et il y a des trucs, il y a des scènes dans ce film, je pense à une scène particulière, je vais pas en parler, mais qui arrive et qui a mis toute la salle dans le mal.
Dis un mot-clé pour comme ça je vois laquelle tu vas.
Vitre.
En fait, je l'ai un peu vu venir, enfin, vu le cadrage de la scène, je me suis dit.
Bien sûr.
tu sais qu'elle va arriver à ce moment-là, mais je ne savais pas le déroulement, on va dire, le modus operandi de la scène. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais oui, je laisse continuer.
Mais c'est ça, en fait, et en fait, il renoue avec une sorte de brutalité qu'on a... Enfin, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, même si je trouve que ça arrive, et justement, les gens de YouTube commencent à arriver vraiment sur les grands écrans, et moi, l'année dernière... Ma grosse claque, c'était Substitution, Bring Up Back, qui était aussi très brutal, très viscéral, extrêmement réussi pour moi. Et là, en fait, il y a une sorte de nouvelle génération qui arrive et qui va remettre tout ça au goût du jour, même les effets pratiques. Là, le gars, il avait de l'argent pour faire des CGI et tout, il a décidé vraiment de faire de l'effet pratique, parce qu'il dit, bah, en fait, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux pour le spectateur quand il voit que les acteurs réagissent vraiment à des choses qui sont sur le plateau. Et ouais, en fait aussi, il renoue avec le malaise au cinéma. Et c'est en ça qu'il s'inspire beaucoup de Ari Aster et qu'il le cite parmi ses inspirations, clairement, Midsommar, Hérédité. Enfin, il a fait voir Hérédité à tout son casting. Mais,
ça ne m'étonne pas vu le film.
Vraiment, vraiment. Et puis en fait, on est très mal à l'aise. Il y a une scène dans la chambre, un moment où la fille fait des choses très bizarres et...
Bah, écoute, moi, j'ai vu un peu en retard par rapport à mes potes ce film, parce que je suis une grosse adepte du cinéma d'horreur, mais moi, ça fait pas longtemps, mais ça fait pas... c'est pas hyper récent, la dernière fois que j'ai vu un vrai bon film d'horreur au cinéma, en tout cas, que j'ai un peu arrêté d'en voir, même malgré moi.
Oh.
Parce que juste pas tout le temps le budget et le temps, etc. Par exemple, j'ai toujours pas vu Weapons, alors qu'on m'a dit que c'était génial, donc voilà. Mais ouais, la obsession, je me suis dit, bon, début de mois, j'y vais, et la claquasse, quoi. Voilà, en fait, tout le monde m'avait dit, ouais, c'est trop bien et tout. Je me dis, est-ce que c'est une sur-hype ou est-ce que vraiment le film, il tabasse? Et le film tabasse. Dans tous les sens du terme, voilà. Et en fait, j'ai été très très étonnée, parce que à chaque fois, quoi. En fait, c'est un peu con, mais en fait, ces temps-ci, en tant que jeune génération, on a vu tellement de films d'horreur, etc. On a tellement été témoins de films d'horreur récents qui utilisent les jumpscares à outrance, etc. Ouais. La même mécanique. Que je sais pas toi, mais moi, dès que je veux voir un film d'horreur au cinéma, ces temps-ci, je me dis, bon, est-ce que ça va être prévisible? Est-ce que ça va utiliser des trucs très clichés, etc.
C'est ça.
Et en fait, non, parce que ce réalisateur joue de ça, justement. Je cite, en fait, il se demandait comment faire aller les choses de pire en pire sans être répétitif. Donc ça, c'était un peu le modus operandi de l'écriture, et ça se ressent beaucoup, beaucoup. Parce que, je m'attendais pas à tellement de violence, je me suis empêchée de voir la bande-annonce pour éviter de me spoiler les effets. J'ai juste vu des images par-ci, par-là, donc de personnages ensanglantés sans avoir la ref de la scène. Et en fait, je vous conseille vraiment cette expérience, parce que comme ça, vous êtes vraiment vierge de toute expérience par rapport au film. Et oui, vous en prenez plein la gueule, littéralement. Ah, c'est horrible. Même moi qui suis adepte de films d'horreur, c'est pas pour vous surhyper le film. Même moi, en tant qu'adepte de films d'horreur, c'est un genre qui m'a beaucoup fait grandir en tant que cinéphile. Il y a des moments où j'avais envie de me cacher, parce que j'avais pas envie de voir ce qui allait arriver. Il y a des fois, j'étais vraiment collée contre mon siège, je me collais hyper fort contre mon siège, parce que j'avais juste... malaise, en fait. Et ça, c'est encore une fois le modus operandi de Curry Barker, en fait. Parce qu'apparemment, il a utilisé les films d'horreur actuels prévisibles comme modèle de ce qu'il ne fallait pas faire. Donc pour lui, les moments perturbants sont au-dessus des jumpscares, et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Il aime beaucoup instaurer des ambiances vraiment très glauques, où tu sens que l'ambiance est très poisseuse, et en fait tu subis le moment, par exemple la scène de la chambre, sans trop vous en dire. Ça m'a fait beaucoup penser à un film, je sais pas si tu l'as vu, c'est Mr Babadook.
Ouais, bien sûr.
Ça m'a beaucoup pensé à ça. Je me dis, il y a un truc qui rôde dans le coin, et il reste là, et il te regarde... Et c'est horrible, voilà. En fait, il joue beaucoup de ça. Il aime beaucoup les histoires qui font se dire « qu'est-ce que je ferais dans cette situation ?» il aime beaucoup les personnages troubles et il les préfère aux héros. Et c'est vrai que ça ajoute encore plus de malaise au film. Le film ne serait pas le film sans l'écriture des personnages, parce qu'il n'y a aucun des personnages en film qui est profondément parfait,
voilà.
Dont les protagonistes. Et oui, en fait, sans trop vous en dire, le protagoniste, c'est la fin où je le détestais, en fait. C'est à cause de lui tout ce qui se passe littéralement, quoi.
Ah, vraiment, vraiment.
Oui, c'est génial, parce qu'en plus, il utilise une trope que tout le monde se demande, en fait, évidemment, quand on était petit, on se demandait, oui, si t'avais un vœu, t'aimerais quoi? Ah, j'aimerais trop qu'on croche même. Ouais, bon, là, ça utilise ça, mais en version horrifique, et ce que je trouve hyper cruel, sans trop vous en dire sur la suite et tout, en fait, ce que je trouverais encore plus cruel dans le film, mais c'est ça qui ajoutait encore malaise de ce qui se passait, c'est que sa croche, encore une fois, c'était son ami de base. Et en sachant ça, c'est en fait tu te dis la pauvre. Voilà, je vous en lis pas plus. Regardez sans savoir vraiment, enfin plus que ce qu'on est en train de vous dire. Encore une fois, pour citer Curie Barker, je pense qu'en tant qu'être humain, la peur vient de cet endroit très étrange où nous ne savons pas comment nous devons nous sentir. C'est une science de savoir être juste à côté, étrange, hors de l'humain. Donc, encore une fois, si vous aimez les films en dehors des sentiers un peu battus du cinéma très conventionnel, enfin du cinéma d'horreur très conventionnel auquel on a affaire ces dernières années, allez voir Curie Barker parce que c'est un petit jeune prodige et Obsession, c'est grandiose. J'ai très hâte de voir Milk and Cereal. Il est disponible sur YouTube, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Le mec a commencé sur YouTube.
En plus, il dure que une heure, donc si vous n'avez pas les films qui durent très longtemps, là, ça dure vraiment une heure et il a l'air très très cool. Donc de ce que j'ai compris, c'est des pranks qui tournent mal pendant une fête d'anniversaire, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Vraiment, le protagoniste principal est terrifiant. Genre, on voit l'affiche avec le masque et tout, mais... Et oui, enfin, Obsession, c'est ça aussi. Il arrive à jouer avec les personnages et au début, enfin, moi, j'étais vraiment persuadé que c'était lui qui allait être obsédé et tout, et que... Parce que c'est... Enfin, génération... Enfin, c'est une nouvelle génération qui est plus à même... Enfin, qui est plus, comment dire, concernée par les problématiques féministes, etc. Donc, je me suis dit, bah, forcément, ça va être lui, etc. Et du coup, après, je me dis, ah, il prend une direction que je m'attends pas. Et en fait... Forcément, il va retomber sur le truc de bah. Enfin, il y a pas. C'est pas l'histoire d'un mec parfait qui va. Le pauvre qui va être harcelé par son crush qui est obsédé par lui. Ça va être un peu plus compliqué que ça. Et il y a aussi d'autres personnages autour qui sont super bien joués. Moi, je m'attendais pas du tout à ça de leur part, etc.
Ouais.
C'était trop intelligent. Et ouais, c'est pas parfait, mais le gars, il est vraiment fort.
Effectivement, donc on vous conseille le cinéma de Curie Barker, évidemment. Moi, je me tâte de voir Milk and Cereal, je pense que je rattraperai ce soir. Petite soirée chill et film à la maison parce qu'il fait très chaud. Mais en tout cas, si vous voulez aller au cinéma, on vous rappelle qu'il y a des chouettes salles très climatisées ou alors qui refourguent des éventails, comme par exemple le cinéma galerie. Qu'il ne manque pas non plus de vous fourguer aussi des rafraîchissements. Parce qu'on vous rappelle d'encore une fois vous hydrater pendant cette canicule. Mais pour revenir à Curie Barker, si vous avez vu Obsession et son ancien film, et si vous voulez juste le pincer dans votre tête, enfin le pinner, l'épingler dans votre tête en tant que cinéaste prometteur, en tout cas pour moi c'est le cas pour l'instant, il faut sachez que prochainement est en écriture son prochain film qui apparemment parle de faux exorcistes, on va dire, donc de faux mecs dans le paranormal qui vont encore une fois arnaquer littéralement une famille chez eux. Et ça va partir en vrille parce qu'en fait, il se trouve que, apparemment, là où ils vont faire ce fameux prank assez cruel, ce sera vraiment un vrai lieu hanté. Et là, c'est ce qu'on appelle le karma pour la suite. Et ça me rappelle beaucoup un film qui s'appelle Les mauvais esprits ou Les esprits malins. C'est sur Netflix avec Florence Pugh.
Okay.
C'est vraiment le même pitch. Par contre, c'est très cheap. On va pas se mentir, c'est très cheap et c'est très long. Il y a un problème de longueur, mais c'est pas trop mal. Donc, je vous conseille si vous voulez. Ça dure une heure et demie, un truc comme ça. Mais il y a un problème de rythme. Et aussi, d'ailleurs, truc un peu stylé, il va aussi bosser sur un nouveau Massacre à la tronçonneuse.
Yes.
Et ça, c'est très stylé.
C'est
trop
cool.
Est-ce que c'est pour A24? Je sais plus si c'était pour un studio, je sais plus lequel.
Je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça cool que les studios viennent chercher aussi les jeunes réalisateurs comme ça et leur fassent confiance. Je pense à Sébastien Vanischek et Flaubert qui ont été recrutés après leur Vermine, le film sur les araignées, pour faire le nouveau Evil Dead qui sort très bientôt et j'ai trop trop hâte. Et là, Massacre à tronçonneuse, tu me l'apprends, mais je suis trop content que lui, qui parle vraiment de ces gens, de cette Amérique un peu bizarre et de ces fous qui vivent parmi nous, etc., va faire un Massacre à tronçonneuse qui parle pas mal de ça. Ça va être génial.
À fond. Ben voilà, on arrive petit à petit à la fin de cette émission. On espère que ça vous aura un peu diverti. On espère qu'on vous aura pas trop inondé avec plein de noms de films. Évidemment, c'était pas évident de faire une émission en retour sur Cannes sans vous parler de plusieurs films parce qu'encore une fois, cette année, il y a eu beaucoup de retours de grands réalisateurs, etc. Mais en tout cas, pour rappel, donc, on vous conseille les films La Vénus électrique de Pierre Salvadori, petite comédie qui mêle humour, fantastique et amour. Voilà, qui est vraiment très très chouette. Il y a L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen. Si vous aimez des films avec une tension qui monte crescendo, et là ça parle de tension familiale avec un Javier Bardem très en forme et Marina Foïs qui passe une petite tête. C'est un petit rôle, mais elle est toujours très bien dedans. Ouais. Et surtout, Obsession, qui est vraiment génial. Si vous êtes adepte de films d'horreur, allez-y. Par contre, si vous n'êtes pas trop habitué, peut-être pas, parce que c'est un peu chaud en vrai, ouais, en termes de ce qui arrive. Voilà, sans trop vous sur-hyper le truc. Voilà, donc c'était les trois films qu'on vous a recommandés. Est-ce que tu as encore une petite recommandation à faire ?
Moi, je pense que j'aimerais bien dire un mot sur le truc des films d'horreur qui arrivent actuellement en salle. Je trouve que la deuxième moitié des années 2020 est très prometteuse et je suis vraiment très content de voir tous les films qui sortent en ce moment d'horreur. Moi, le dernier film que j'ai vu, c'était Le Réveil de la Momie, pardon, qui est un super film hyper viscéral aussi, très grand. En fait, c'est le retour un peu du grand guignol aussi au cinéma d'horreur. Ce truc de malaise, Curry Barker, il dit « J'écris l'horreur comme j'écris la comédie, en fait. » Parce que pour moi, c'est la même sensation un peu de déstabiliser les gens et trouver la chose qui les fera basculer. Mm-hmm. Et je trouve ça super intéressant. Et Substitution l'année dernière, Together, enfin toute cette nouvelle génération qui arrive et qui va un peu tout casser. J'ai trop hâte de la suite.
Il y avait aussi un film qui me hype, c'est Passager. On m'a dit que le Passager, on m'a dit qu'il était très bien. Et ça ressemble, on dirait que ça pique un peu le trope de la fameuse légende urbaine de la Dame Blanche. Mmh. Ça ressemble un peu à ça, ça me hype. On m'a dit que c'était très chouette.
Qui est actuellement en salle, c'est ça ?
Ouais, il est actuellement en salle. Mmh. Donc voilà, beaucoup de chouettes films en salle ces temps-ci. Il y a un peu à boire et à manger pour tout le monde. Et on vous laisse sur une petite musique. Qui m'a beaucoup fait penser ironiquement à ce qui se passe dans Obsession. Mais je pense que c'est le genre de musique qu'écoutait Bert, donc le personnage principal, en pensant à sa crush, Nikki, avant de lui avouer sa flamme. C'est pas un spoil, c'est vraiment le début du film. Donc Every Breath You Take de Police, qui n'est pas vraiment une chanson d'amour très saine si on écoute vraiment les paroles. Et est-ce que ce serait pas un peu la synthèse du film, finalement ?
Ah, tout à fait. Moi, je suis sorti, j'étais dégoûté. J'étais en mode, voilà. Bon bah voilà, c'est fini.
Je ne crois plus en l'amour, c'est on fini. Arrête. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission thématique qui a l'air vraiment très très chouette. Donc voilà. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Salut.
Au revoir.